RFI, les 2h à Paris, minuit en temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
La passe d'armes continue entre Israël et l'UNRWA. Ce mardi, le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a réclamé l'ouverture d'une enquête indépendante pour connaître les raisons de la mort de 180 employés depuis le début de la guerre à Gaza. L'État hébreu continue de croire que l'UNRWA est pollué de l'intérieur par le Hamas. Pour l'ONU justement, l'accord pour un transfert de migrants de la Grande-Bretagne vers le Rwanda ne passe pas. Les Nations Unies y voient une menace pour les droits humains. Kigali se réjouit de ce juteux contrat. Et puis le Parlement européen vote largement contre l'importation de produits issus du travail forcé. Dans le viseur des eurodéputés, la Chine, notamment pour son exploitation de la minorité ouïghour. Après plus de 6 mois de guerre dans la bande de Gaza, 180 collaborateurs de l'UNRWA sont morts, selon son chef. Et cela mérite des éclaircissements par la mise sur pied d'une enquête du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ce qu'a réclamé mardi Philippe Lazzarini, le patron de l'UNRWA, qui évoque un mépris flagrant à l'égard des employés, des locaux et des opérations de l'ONU à Gaza. Cette prise de parole, elle intervenait au lendemain de la remise d'un rapport sur le fonctionnement de l'agence onusienne par un groupe d'experts indépendants. Ce document avait été commandé par l'ONU alors qu'Israël accuse l'UNRWA d'être à la botte du Hamas. Sauf que le texte souligne l'absence de preuves et que malgré des failles décelées dans la neutralité de l'UNRWA, elle reste indispensable pour aider les Palestiniens. Nos envoyés spéciaux Nicolas Benita et Nicolas Falaise sont partis en reportage dans le camp d'Aïda à Bethléem en Cisjordanie occupée pour constater l'impact de cette structure.
En blouse blanche, au milieu de cartons de médicaments estampillés UNRWA, Kawfer Rabah ne cache pas son soulagement. Réfugiée palestinienne, employée depuis 30 ans par l'UNRWA, Kawfer est pharmacienne dans ce centre de santé géré par l'agence, dans le camp de réfugiés d'Aïda. Je me suis sentie accusée et prise pour cible, dit-elle à propos des déclarations israéliennes visant l'agence. Ici, on travaille pour aider les gens, dans une organisation qui n'a rien à voir avec la politique. On nous a accusés, cela a créé du malaise, on a ressenti de l'injustice. Dans le hall, voici Mouataz Badawi, médecin généraliste. Lui aussi a hérité du statut de réfugié palestinien. Et tous les jours, il conduit sa voiture entre le camp dans lequel il vit et celui d'Aïda, où il dirige ce centre de soins. Je crois qu'il faut prendre sérieusement en considération toutes les recommandations de la commission d'enquête, explique le médecin. Mais selon lui, la neutralité est déjà un sujet sacré pour la majorité des employés de l'agence régulièrement formés sur cette question. Dans le centre de santé comme dans les rues du camp, on espère désormais que les pays qui ont suspendu leur contribution à l'UNRWA vont reprendre leur versement. Nicolas Benita, Nicolas Falaise, camp de réfugiés palestiniens d'Aïda, RFI.
L'un des hommes les plus puissants de l'appareil sécuritaire de la Russie, arrêté. Timur Ivanov, ministre adjoint russe de la Défense, a été interpellé ce mardi, soupçonné d'avoir accepté un pot de vin selon le comité d'enquête russe. C'est l'un des plus proches et riches amis du ministre Sergueï Shoigu. Sous sanction de l'Union européenne, Timur Ivanov pourrait désormais être condamné à une peine variant d'une forte amende à 10 ans de prison en fonction de la gravité de son crime. Une vague de condamnation du projet d'expulsion de migrants illégaux de la Grande-Bretagne vers le Rwanda. L'ONU craint pour le sort de ces exilés et a demandé à Londres mardi de reconsidérer son plan adopté par le Parlement britannique la nuit dernière. Pour le gouvernement britannique, en revanche, c'est une immense victoire. Le dossier traîné depuis 2 ans. Il ne reste plus que l'accord du roi, mais désormais c'est une formalité. De son côté, l'État rwandais s'est dit impatient d'accueillir les personnes relocalisées. Il faut dire que Kigali a beaucoup à gagner grâce à cet accord. C'est ce qu'explique Benjamin Chemouni. Il est professeur d'études en développement à l'Université catholique de Louvain, en Belgique.
Jusqu'ici, pas un seul demandeur d'asile en provenance du Royaume-Uni a mis le pied au Rwanda et je crois que le gouvernement a versé 500 millions de livres sterling. En guise de comparaison, c'est environ un cinquième, un quart du budget de l'État. Surtout dans un pays qui a toujours besoin de devises étrangères, ce flot d'argent, pour l'instant sans aucune condition, rien que ça, évidemment, c'est quelque chose qui est très utile au pays. La deuxième chose, c'est qu'une fois ces demandeurs d'asile au Rwanda, tous leurs frais, sauf erreur de ma part, seront payés par les Britanniques. britanniques. Au Rwanda, ça leur permet d'utiliser le nombre d'infrastructures qu'ils ont. Il y a beaucoup d'hôtels dont le taux d'occupation est assez faible. Ça donnera aussi des emplois à un certain nombre de Rwandais. On sait que créer des emplois pour la jeunesse, c'est quelque chose dont le gouvernement a besoin. Donc sur le papier, le Rwanda, entre guillemets, a peu à perdre.
Est-ce que cet accueil de migrants permet à Kigali de neutraliser les critiques ?
C'est sûr que si jamais la logique est que le Royaume-Uni envoie des demandeurs d'asile parce que le Rwanda est vu comme relativement sûr avec un état de droit qui peut être garanti, en tout cas pour ces gens-là, il est difficile d'imaginer que le gouvernement britannique va par ailleurs émettre de fortes critiques sur la situation des droits de l'homme au Rwanda. Donc c'est sûr que ce deal, d'une manière ou d'une autre, participe un petit peu à neutraliser un certain nombre de critiques au niveau britannique.
Des propos recueillis par Alexandra Branjon. Et en marge de l'avancée de ce projet, 5 migrants sont morts ce mardi alors qu'ils tentaient de rejoindre le Royaume-Uni en traversant la Manche. Le bateau était parti du nord de la France avec 110 personnes à son bord. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme va rouvrir au Venezuela. Le président vénézuélien Nicolas Maduro l'a annoncé ce mardi. Ce bureau avait été fermé en février après l'arrestation d'une militante des droits humains. Les eurodéputés, eux, ont décidé d'interdire les produits issus du travail forcé ce mardi. Cette nouvelle législation vise à freiner les importations venant de certains pays où l'exploitation d'ouvriers a pu être documentée. C'est le cas, par exemple, de la Chine avec la population ouïghour. Pour l'eurodéputé écologiste Mounir Satouri, ce texte est majeur pour changer les habitudes de consommation.
Qui sait parmi nos concitoyens, quand il achète un pull, que de l'autre côté, l'autre bout du monde, c'est des personnes réduites en esclavage qui le fabriquent. Et donc, on va être protégé. Donc, il y a un fichier des États qui organisent le travail forcé. Et donc, il va y avoir une vigilance particulière quand les marchandises viendront de là pour empêcher leur entrée sur le marché européen et pour qu'ils soient retirés du marché si jamais c'était le cas. Et puis, il y a un engagement, une mobilisation à l'échelle de chacun des États membres pour qu'il y ait des contrôles. Et quand on saura que des lanceurs d'alerte attirent l'attention des autorités sur tel endroit dans le monde, tel pays, telle usine use du travail forcé, ben il y aura des enquêtes et ça sera aux importateurs de prouver qu'ils mettent les diligences nécessaires, qu'ils font les contrôles nécessaires pour nous assurer qu'il n'y a pas de travail forcé qui rentre.
Mounir Satouri au micro de notre envoyé spécial à Strasbourg, Daniel Vallot. Le Parlement européen au cœur duquel se serait immiscé le renseignement chinois. La justice allemande a annoncé ce mardi l'arrestation d'un ressortissant germano-chinois, l'un des assistants de l'eurodéputé Maximilian Kra, tête de liste aux élections européennes de juin pour l'AFD, le parti d'extrême droite allemand. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a dénoncé une calomnie. C'est la deuxième annonce de ce type en deux jours en Allemagne, puisque lundi, Berlin avait annoncé l'arrestation de 3 personnes soupçonnées de travailler, elles aussi, secrètement pour Pékin. Les constructeurs chinois, tête de gondole du secteur de l'électrique. Globalement, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié mardi, le nombre de voitures électriques vendues avait progressé de 35%, un record. Cette année, cela devrait être un peu plus faible, même si la hausse des ventes se maintiendra autour de 20%. Et la Chine va rester la place forte du secteur, Nicolas Feldman.
Sur les 17 millions de véhicules électriques vendus dans le monde cette année, près de 10 millions devraient être écoulés sur le marché chinois. L'agence explique d'abord ses bons résultats par les investissements massifs de Pékin dans ce secteur. Mais le directeur de l'AIE, Fatih Birol, souligne surtout le choix payant de la Chine de privilégier des modèles électriques plus petits et surtout moins chers.
Plus de 60% des véhicules électriques vendus en Chine sont moins chers et donc plus compétitifs que leur équivalent avec un moteur thermique. C'est pour cela que la Chine domine aujourd'hui de très loin le marché. Le pays est de facto le premier constructeur de véhicules électriques au monde.
Une stratégie qui bénéficie aussi aux constructeurs. Plus d'un véhicule électrique sur deux vendu dans le monde a été produit en Chine. Cette offre abondante déstabilise les autres marchés, à commencer par l'Europe. En 2024, les ventes de véhicules électriques ne devraient augmenter que d'à peine 10% par rapport à l'année dernière. En plus de la concurrence chinoise, l'Europe doit faire face à l'arrêt dans certains pays des subventions à l'achat des véhicules électriques et relevé plusieurs défis, notamment celui de rendre les batteries plus disponibles et de développer son réseau électrique.
Nicolas Feldman. Et puis en football, c'est un derby de Londres qui a viré à la correction pour Chelsea. Défaite 5-0 face à Arsenal ce mardi pour un match en retard de la 29e journée de Premier League anglaise. Grâce à ce succès, les joueurs de Mikel Arteta conservent la tête du championnat devant Liverpool et Manchester City qui comptent 2 matchs de retard. C'est la fin de ce journal sur RFI. Il est presque 2h10 à Paris, minuit 10 en temps universel. Merci.